Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. On peut se demander quelle est l'importance de ce détail, comme une colombe. C'est un détail qui ne doit pas être négligeable, pourtant parce que les quatre évangélistes le rapportent, aussi bien Marc que Matthieu, aussi bien Luc que Jean. Or, il n'y avait pas de prophétie explicite selon laquelle l'Esprit Saint devait descendre comme une colombe. Pourtant, chacun des évangélistes le rapporte avec précision. L'Esprit Saint a donc bien dû se manifester sous cette forme corporelle, celle de la colombe. Mais cela étant, quel sens nous apporte la forme de cette manifestation? Quel sens vient nous apporter le fait que ce soit comme une colombe que l'Esprit Saint se soit manifesté? Alors, si vous recherchez dans les Écritures la présence simultanée d'eau et d'une colombe, cela nous ramène à deux épisodes du livre de la Genèse. Le premier épisode, c'est celui de la création. On nous dit que l'Esprit planait sur les eaux, et à partir de ce moment-là, le monde va prendre forme. Et la tradition juive a précisé à cet endroit, on le trouve chez un commentateur juif qui s'appelle Rashi, que l'Esprit Saint planait sur les eaux, et il est rajouté dans le commentaire comme une colombe. Le deuxième épisode où on trouve unis colombe et l'eau, c'est l'épisode de Noé. Et je voudrais m'étendre avec vous un instant sur cet épisode de Noé. Vous pouvez le retrouver au chapitre 7 et 8 de la Genèse. Alors vous vous souvenez, les eaux du déluge ont recouvert toute la terre et noyé toute chair vivante. Les eaux commencent à décroître et Noé envoie une colombe pour savoir si la terre est sèche désormais. Une première fois, la colombe revient sur l'arche. Car elle n'a pas trouvé de lieu sec où poser ses pattes. 7 jours plus tard, une deuxième fois, elle est envoyée. Et là, elle revient avec un rameau d'olivier tout frais. 7 jours plus tard, une troisième fois, la colombe qui est envoyée, là, ne revient pas. Et si elle ne revient pas, ça signifie que la colombe a trouvé son gîte sur la terre. La terre a séché, la terre nouvelle est prête pour accueillir la vie. Et donc, nous comprenons à ce moment-là que la colombe apparaît comme celle qui indique la terre nouvelle, la terre prête à accueillir la vie. Et donc, si la colombe est le signe et celle qui désigne la terre nouvelle qui est prête à accueillir la vie, alors quand la colombe se pose sur Jésus, la colombe le désigne comme la terre nouvelle. La colombe, l'Esprit Saint comme une colombe, le désigne comme le lieu où la vie se déploie. Et c'est très étonnant parce que, justement, cette terre nouvelle, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un pays. Cette terre nouvelle où se déploie la vie, c'est la personne de Jésus. C'est l'humanité de Jésus. Alors ça, c'est pas évident à intégrer pour nous. Il faut peut-être y revenir plusieurs fois et le méditer. La terre promise n'est pas un arpent de terre, c'est pas un périmètre sur la terre. La terre promise, c'est la personne même de Jésus. Le royaume que Dieu promet, le paradis pour nous, ce n'est pas un royaume que l'on fabriquerait sur la terre, c'est la personne même de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le royaume n'est pas un endroit sur la terre plus qu'un autre endroit. Le royaume est là où est le Christ. Le royaume est là où est le Christ. Cela signifie que si le Christ est présent dans mon existence, où que j'aille, je goûterai déjà quelque chose du royaume. Mais si le Christ n'est pas le fondement de ma vie, où que j'aille, je ne trouverai pas le goût du royaume. Donc, premier signe, premier enseignement, la personne du Christ est cette terre nouvelle prête à accueillir la vie, Et c'est la présence du Christ dans mon existence, comme fondement de mon existence, qui me donne du coup de pouvoir goûter quelque chose du royaume où que je sois sur la terre. L'épisode de Noé nous apprend encore autre chose, si l'on se souvient de ceux qui avaient provoqué le déluge. Alors, qu'est-ce qui avait provoqué le déluge ? Toute chair ayant souffle de vie devait périr, parce que toute chair avait une conduite mauvaise, perverse sur la terre. Et la violence de toute chair sur la terre avait une origine. L'origine de cette violence, c'était la méchanceté des hommes dont le cœur ne formait que de mauvais desseins, de mauvais projets à longueur de journée. C'est le chapitre 6 de la Genèse qui le met en avant. Et donc on découvre là que la méchanceté du cœur de l'homme avait donc été contagieuse à l'ensemble des vivants sur la terre. La violence du cœur de l'homme avait donc été contagieuse, pas simplement aux autres hommes, mais à tout ce qui avait souffle de vie sur la terre. Pour que nous puissions toucher du doigt, qu'est-ce que ça veut dire que la violence du cœur de l'homme est contagieuse au reste de la création ? Je vais prendre quelques petits exemples, déjà pour susciter notre imagination. Pensez parfois à ces chiens que l'on voit, qui sont devenus méchants, soit parce qu'ils ont été mal dressés, soit parce qu'ils ont été dressés au mal. Dans les deux cas, la responsabilité de l'homme est engagée parce que la création lui a été confiée. Il est le maître de la création, il reçoit cette grâce de la part de Dieu pour être un bon maître. Mais il peut détourner cette emprise et du coup, la création va porter un mauvais fruit, va se biaiser. Voilà un premier exemple, où on pourrait encore prendre un autre exemple en regardant que l'appât du gain pour l'être humain peut l'amener à ne plus respecter ce qu'est la création. Et donc, parfois, on le voit actuellement avec l'apparition de ces coronavirus, qui sont des virus issus du monde animal, et qui se transmettent à l'homme, parce que l'homme organise des systèmes où il y a une trop grande promiscuité entre les êtres humains et des animaux qui sont rassemblés sur de trop petits espaces. L'avidité nous rend imprudents par rapport à la réalité de la création qui nous devient, du coup, hostile. Il y a une méchanceté du cœur de l'homme qui est contagieuse à la création. Et il y a une méchanceté spirituelle du cœur de l'homme qui est contagieuse à la création. C'est une notion qui nous est un peu devenue étrangère, ce lien affirmé entre la bonté ou la malice de l'homme d'un côté et l'harmonie du cosmos. Entre la bonté ou la malice du cœur de l'homme d'un côté et l'harmonie du cosmos. L'Église d'Orient est restée très sensible à cela. Les mouvements écologistes qui sont à la mode aujourd'hui souvent voient l'homme comme séparé du cosmos, comme indépendant du cosmos, presque comme un intrus dans la création, et imagineraient une création dépouillée de l'homme. Le livre de la Genèse nous présente pourtant l'homme comme faisant partie de la création. Souvenez-vous du regard de Dieu. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon, dont l'homme, certes avec une place particulière, mais faisant partie de l'ensemble de la création. Du coup, quand on se souvient de cela, dans le livre de la Genèse, avec cet épisode de Noé, Jésus apparaît non seulement comme la terre renouvelée prête à accueillir la vie, mais aussi comme l'homme renouvelé, comme l'homme pur, autour duquel le reste de la création pourra se déployer dans l'harmonie. La malice du cœur de l'homme entraîne la ruine de la création, la bonté du cœur du Christ ouvre à un renouvellement de la création. Et la chose est manifestée de façon discrète à plusieurs reprises dans le ministère de Jésus. L'expérience commune nous apprend que c'est la maladie qui est contagieuse. Elle se répand, elle infeste ceux qui entrent en contact avec elle. Et nous voyons dans le ministère du Christ que la pureté du Christ, c'est elle qui se révèle contagieuse. Il touche les lépreux et il n'en est pas malade, et ce sont les lépreux qui sont purifiés. La femme qui souffrait de perte de sang, la femme hémorroïse, touche son vêtement et elle en est guérie. Le Christ purifie et sanctifie la création par son corps, par son humanité. Nous en gardons la mémoire très vive dans la liturgie du baptême, non pas une mémoire du passé, mais une mémoire agissante depuis le baptême du Christ. Vous savez que lorsqu'on célèbre un baptême, normalement on bénit l'eau qui va servir au sacrement du baptême. Il y a une eau, cependant, que l'on ne bénit pas si on l'utilise. C'est l'eau du Jourdain. Si on utilise de l'eau du Jourdain pour un baptême, il n'y aura pas de bénédiction pendant la célébration du baptême. Pourquoi ? Parce que cette eau est déjà bénie. L'eau du Jourdain a été bénie, sanctifiée par le baptême de Jésus dont nous faisons mémoire aujourd'hui. L'Esprit Créateur qui repose sur Jésus opère une recréation pour l'ensemble de l'univers. Et il est important de souligner que c'est à travers l'humanité de Jésus, à travers son corps, à travers son âme, que s'opère cette recréation. Et ce qui est nouveau dans la descente de l'Esprit Saint, c'est pas qu'elle soit sur le Fils du Père. De toute éternité, le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Ce qui est nouveau, c'est que l'Esprit Saint vient faire sa demeure jusqu'au cœur de l'humanité du Christ, une humanité semblable à la nôtre. L'Esprit Saint vient emplir l'humanité du Christ, son corps et son âme. Il vient faire de l'humanité le temple de Dieu. Si l'Esprit Saint emplit le corps du Christ, il emplit aussi son corps qui est l'Église. L'Esprit Saint veut descendre sur nous. L'Esprit Saint peut faire sa demeure en nous. Il peut trouver en nous la terre nouvelle qu'est le Christ. Et l'Esprit Saint veut sanctifier à travers nous, transformer le monde à travers nous. Et c'est pour ça que nous avons une double mission. Nous avons une mission de prendre soin de cette création qui nous a été confiée, tout particulièrement depuis cet épisode du baptême du Christ. Car nous devenons unis au Christ, cet homme pur qui permet le renouvellement de la création. Et cela passe à la fois par notre engagement matériel vis-à-vis des ressources de la création, vis-à-vis de la façon dont nous sommes présents dans la création, dont nous lui donnons de porter son meilleur fruit, dont nous prêtons garde de ne pas la saccager ou de nous prêter au gaspillage, mais aussi spirituellement. Et c'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que dans notre prière, il nous arrive de présenter au Seigneur la création qui nous entoure? Nous sommes dans un jardin et nous regardons les arbres, les fleurs qui nous entourent. Est-ce qu'il nous arrive de dire, Seigneur, par ton Esprit Saint, viens bénir, renouveler cette création? Lorsque je traverse des champs, peut-être, où je vois le blé pousser, est-ce qu'il m'arrive de dire, Seigneur, viens bénir ce travail de l'homme et viens bénir ce travail de la nature? À la fois parce qu'il est beau et que nous en trouvons notre subsistance, mais parce que tu nous en as donné cette mission d'être grand prêtre de la création, par le Christ Jésus, tu as donné l'homme pur, l'homme renouvelé, qui permet à la création de porter son fruit. Et je m'associe par ma prière, par mon effort spirituel, à cette mission de renouvellement de la création. Frères et sœurs, peut-être aujourd'hui, en ayant communié, soyons tout particulièrement attentifs que nous serons remplis de l'Esprit Saint et lui demander de demeurer en nous, de nous accompagner cette semaine pour qu'à notre contact, même invisiblement, les cœurs découragés puissent être fortifiés, les cœurs rongés par la fascination du mal puissent être purifiés et que la création qui nous entoure puisse être renouvelée. Dieu notre Père, envoie ton Esprit Saint. Par notre baptême, nous avons été unis à Jésus. Fais de nous les temples de l'Esprit Saint. Rends-nous par ton Fils avec lui. et en lui, sanctificateur du monde, que ce soit dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos promenades. Rends-nous contagieux de la pureté et de la sainteté. Que le monde soit transfiguré par ta présence qui rayonne en nous. Amen.